Ce podcast vous est proposé par Lifeproof, concepteur de coques prêt à affronter toutes les situations et qui vous permettent de vivre à fond chaque instant. Que cela soit défier les vagues ou vivre des aventures, les coques Lifeproof protègent l'un de vos outils les plus précieux, votre téléphone. Que vous optiez pour l'étanchéité à l'eau avec Free, la polyvalence avec Next ou la simplicité avec Slam, les coques Lifeproof vous permettent de faire ce que vous voulez sans hésiter. Pour commencer à vivre à fond, rendez-vous sur lifeproof.fr/lifeproof15 et économisez 15% sur votre coque Lifeproof.
RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Francis Liasser et Laurent Paganelli, bienvenue dans le podcast After Saint-Étienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts. Avec aujourd'hui Emmanuel Petit. Manu, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et avec Joss Randall de peuple-vert.fr. Joss qui est à Saint-Étienne, évidemment, et qui est régulièrement présent dans le podcast After Saint-Étienne. Salut Joss.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Manu, bonsoir.
Salut,
à tous.
Alors l'évaluation de l'after après la victoire à Nantes, comme de tradition, et puis deux débats à suivre. La SSE doit-elle désormais clairement viser le podium ? Oui, se positionner les Verts là, hein, quatrième. Et puis la passation de pouvoir entre jeunes et anciens est-elle désormais actée suite au choix de Claude Puel ce week-end ? C'est parti. Taulier Boulet. Alors le taulier, je pense que tout le monde va donner le même. Hein. Mon cher Joss, je te laisse la primeur.
Bon, ça sera le même que lors de mon dernier podcast, ça sera Denis Bouanga.
Évidemment.
Ça paraît clair, là, ça paraît clair. Et le flop paraît clair aussi, mais je le garde pour tout à l'heure.
Ah, Bouanga, quand même, on peut détailler un peu parce que il monte en puissance quand même. Moi, j'étais le premier, et quand il est arrivé à Saint-Etienne, on l'a présenté comme un mec, tu vois, un taulier de la Ligue 1, ce qu'il n'était pas forcément. Je veux dire, à Nîmes, c'était pas un titulaire indiscutable. C'était un petit pari quand même, Bouanga. Bon, bah, le pari semble être en passe de réussir.
Ben, surtout, ce qu'il faut noter sur Denis Bouanga, c'est la régularité de ses performances, et ce, dans quel que soit le système dans lequel il est utilisé, c'est là où c'est vraiment intéressant. Il a été utilisé plusieurs fois en piston, moi j'aime pas trop, mais il a fait des très bons matchs avec un coffre incroyable. Là, il a été utilisé plus en offensif, et il a été très bon, il est bon à chaque match en fait. Et on est tous un peu en recherche de régularité dans les performances. C'est lui qui aujourd'hui porte l'attaque stéphanoise, porte les intentions offensives de la SS. Donc ouais, c'est une des très bonnes nouvelles du recrutement de cette année avec Zédou Youssouf.
Tu mets Bouanga aussi comme taulier, Manu ?
Oui, j'aurais pu mettre aussi les garçons qui évoluent dans les couloirs. Honora ou même Troco. Honora, c'était sa première apparition sous le maillot vert.
Troco, c'est peut-être son meilleur match avec Saint-Etienne depuis
qu'il est
arrivé.
Aussi, donc si les Verts sont allés s'imposer aussi, ils le doivent à l'efficacité de Bouanga, je pense, mais ils le doivent aussi au bon travail aussi des joueurs dans les couloirs.
Absolument d'accord. J'aurais mis sur ce podium-là les deux nouveaux, parce que ça faisait longtemps qu'on... Enfin, Honora, on ne l'avait jamais vu. Pour moi, c'était une vraie très bonne nouvelle. Troco, j'ai, bon, moi personnellement encore des doutes sur la durée, enfin, j'attends de voir, mais il a fait un très bon match, et je complète avec Youssouf, qui lui aussi est très régulier dans les performances, et allez, pour l'encourager, une performance plutôt intéressante de Boudbouz, ça commence à monter un peu en puissance, Boudbouz. Voilà, ça commence à devenir intéressant, alors avec toutes les réserves qu'on peut y mettre, moi j'attends de voir aussi, mais c'était plutôt pas mal.
Alors au niveau Boulet, les gars, qui avez-vous choisi ?
Moi, Kolosijak, parce que depuis le début de saison, il me rassure pas du tout, et je trouve qu'il fait trop d'erreurs défensives individuelles, à la fois dans la communication, dans le placement, mais aussi j'ai l'impression que mentalement, il marche sur des œufs, quoi, ce garçon. Donc, je suis surpris parce que je trouve qu'il a un potentiel pour faire beaucoup mieux. Et quand je vois la renaissance des Verts depuis l'arrivée de Claude Puel, je trouve que ce garçon n'en profite pas.
T'es d'accord, Joss ?
Absolument. C'est net. Enfin, Kolosijak, c'est pas la première prestation dégueulasse qu'il nous fait depuis quelques temps. Bon, c'est un garçon, on dirait qu'il est resté au Mexique. Je suis surpris de voir à quel point on peut avoir un écart de niveau tel entre la saison dernière et cette année. Je l'expliquerai peut-être par le fait qu'il s'est peu ou pas ou mal préparé pendant l'été, parce que son transfert a été très tardif. Il a dit à tout le monde qu'il s'était préparé, moi j'y crois pas une seconde. Il n'y est pas, quoi, tout simplement. Mmh. Il n'y est pas physiquement, il n'y est pas dans sa concentration. Et je pense qu'il faut qu'il fasse très attention, parce que Claude Puel a quand même montré qu'il n'avait pas tellement d'état d'âme à mettre des mecs supposément titulaires avec des statuts sur le banc. Il l'a
même
fait,
si là, on parle d'un joueur qu'il connaît très bien. Hein. Ils ont été ensemble à Nice.
Ouais, mais à Nice, il l'avait mis sur le banc aussi, à un certain moment. Donc, je pense qu'il n'hésitera pas. Et si... Enfin, on a vu avec Perrin, ce qui s'est passé jeudi a été catastrophique. Mmh. Bon, bah, le match d'après, avec Perrin, ok, fatigué peut-être, mais il était sur le banc. Et je pense que Colo va y avoir droit aussi s'il ne remonte pas son niveau. Le seul problème aujourd'hui, c'est que Claude Puel doit faire face à beaucoup de blessés en défense. Donc il est un peu obligé de composer avec les gens qu'il a, mais je pense qu'il préférera aller piocher un mec dans la réserve plutôt que de continuer à accepter des prestations dégueulasses.
On n'a pas cité Amouma. Enfin, Amouma ne fait pas un bon match. Hein.
Non, c'est vrai.
Malgré la victoire.
Bah, il souffre de la comparaison aussi avec Banga. Quoi.
Alors, je mets juste un bémol à ça, Gilbert, parce que moi, je connais bien Amouma et je l'ai beaucoup critiqué. Il ne fait pas un bon match, je suis d'accord. Mais globalement, il fait plutôt un bon début de saison. C'est un des rares qui, là aussi, est plutôt bon. Et puis, sur le premier but de la SS, il a fait un truc qu'on voit rarement faire à Romain Amouma. C'est qu'il s'est arraché pour récupérer un ballon de la tête. Le problème d'Amouma, c'est le combat. C'est un garçon fragile, un garçon qui est très fin techniquement, qui peut apporter beaucoup, mais qui a toujours eu du mal dans l'impact. Là, il y est allé, il récupère un ballon de la tête qui permet la passe de Boudbouze à Honora qui fait ce très bon centre. Et là aussi, j'y vois plutôt un bon signe. Après, c'est vrai qu'il n'a pas fait un match de dingue. Voilà.
On enchaîne tout de suite avec nos débats. Alors, Saint-Etienne, quatrième. On sait que le championnat est très serré, mais enfin, quand on voit ce que les Verts sont capables de produire en Ligue 1, hein, parce que on mettra entre parenthèses le match naze complet de Coupe d'Europe de jeudi dernier à Alexandria, affreux. En plus, là, juste petite parenthèse, on a quand même retrouvé un bon Ruffier contre Nantes, alors qu'il fait une boulette. Je veux dire, la sortie en caressant le ballon de la main là, pour la donner aux joueurs ukrainiens jeudi dernier, ça, c'est pas possible, c'est pas Ruffier. Quoi. Je ne sais pas ce qu'il avait, il était de mauvais poil, j'en sais rien. Mais enfin bon.
Il a peut-être marre d'être pilonné aussi.
Peut-être.
Ruffier, il fait une cagade là, mais avant, il maintenant dans le match à 3 ou 4 reprises. Hein.
Ouais, mais celle-là, elle est tellement énorme. Enfin bon.
Ouais, c'est vrai.
C'était jeudi dernier, donc.
C'est un peu symptomatique de Saint-Etienne. C'est que, en dehors des erreurs individuelles qu'ils peuvent faire, c'est surtout eux qui donnent la possibilité à l'adversaire de marquer des buts. Rarement l'adversaire qui les met en porte-à-faux, même si je crois des occasions. Mais c'est souvent des erreurs individuelles. Regarde, on parlait de Ruffier, mais regarde également le mauvais dégagement de Buchy qui amène le deuxième but, qui vient contrer son partenaire. C'est toutes ces successions de petites fautes individuelles qui fait que il se pénalise tout seul, en fait.
Est-ce que la SSE peut maintenant désormais viser clairement le podium, les gars, vu le contexte général du championnat, certaines grosses équipes qui ne sont pas là. Alors, on peut considérer peut-être que Lyon et Monaco vont revenir à un moment, hein, évidemment.
Lille aussi.
Lille peut-être aussi. Quand on voit ce que Saint-Etienne est capable de faire, pourquoi pas, non ?
Tu viens de le dire. C'est un championnat extrêmement homogène, hormis le PSG qui est tout seul sur sa planète. Tout est possible. On a vu une succession de clubs depuis le début de saison qui se sont échangés les places sur le podium. Donc Saint-Etienne renaît à l'heure actuelle. En fait, moi, ce qui m'interpelle, et contrairement à certains championnats, en Ligue 1, il suffit que tu fasses une série de 2-3 bons résultats pour d'un seul coup, tu t'es propulsé, tu gagnes 12-13 places, quoi, tu vois. Donc oui, tout est possible. Ouais.
Joss, qu'est-ce que t'en penses, t'as vu de Saint-Etienne ?
Je dirais, comme disait Coluche, la réponse est contenue dans la question. Cette Ligue 1, elle a pas donné son verdict, loin de là. Elle est extrêmement bizarre. Il y a énormément de clubs à 19 points. Donc si la vérité du moment, j'aurais envie de dire que oui. Et j'ai encore plus envie de le dire parce que je crois qu'on va aller vers du mieux avec Claude Puel. Dans la continuité des performances, la preuve c'est qu'il n'a pas perdu un match depuis qu'il est là.
Il y a eu des matchs qui étaient nazes aussi quand même. Hein. C'est pas non plus.
Oui. Non, là on ne parle pas de bleu, on parle juste de résultats.
De statistiques.
Parce qu'à la fin c'est les résultats qui.
Puis à la fin de saison, tu t'en rappelleras même plus des matchs bidons.
Ouais, il y a ça aussi. Après, moi, j'ai quand même envie de me dire qu'au bout d'un moment, les grosses cylindrées, elles vont se mettre en ordre de marche. Et ça va remonter vers le haut un peu classiquement. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a plus de 3 équipes qui sont devant la SS en termes de potentiel, d'effectifs et de capacité à obtenir des résultats. Donc, j'ai pas envie de m'enflammer. En fait, c'est un peu l'ascenseur émotionnel aussi chez nous. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Il y a un mois, on était 19e. Là, un mois plus tard, on est 3e. Très bien. Peut-être que dans un mois, on sera 12e. Donc, Moi, je pense qu'il faut attendre. On peut viser, en tout cas, on peut de nouveau imaginer être dans le top 5-6 avec cet effectif et cet entraîneur. Et pour le top 3, ben, ça dépendra aussi un peu des autres.
Et je vais même te dire, je vais rajouter, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis. J'espère que Santé continuera son parcours en Europa League parce que je pense que c'est grâce à ça.
Mal barré. Hein.
Non,
il faut gagner, mais il faut gagner les deux matchs.
Il y a très peu de points qu'il est séparé
avec son
troisième. Moi, j'y crois parce que mathématiquement, tout reste possible et il n'y a pas une grosse différence avec ceux qui sont devant. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que quand je vois l'effectif qui est quand même énorme du côté de Saint-Etienne, le turnover effectué de la part de Claude Puel, il est gagnant à l'heure actuelle parce que justement, il permet à tous les trois jours d'avoir des joueurs nouveaux, une fraîcheur en permanence et une concurrence saine qui est amenée là où je pense que ces dernières années, on avait des tauliers qui étaient dans un fauteuil, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils allaient rejouer le prochain match. Là, je me dis, si l'Europa League n'est plus là, ça risque d'être compliqué à gérer un groupe de plus de 30 joueurs.
On enchaîne, messieurs, et il faut qu'on parle évidemment des choix de Claude Puel. Est-ce que ça y est, est-ce que la passation entre jeunes et anciens est actée? Perrin, donc, sur le banc face à Nantes, Cazerie également. Ça fait des semaines hein, que ça rôde, qu'on voit Puel là faire des choix clairs là-dessus. Est-ce que maintenant, il faut l'acter en se disant que c'est la fin pour Loïc Perrin, qui est une légende du club. C'est comme ça, on voit que ses performances sont moins bonnes. Pendant ce temps-là, Bouanga émerge, donc Cazerie manque pas forcément. Est-ce que vous considérez-vous aussi que ça y est, c'est fait ?
Non, en ce qui concerne Perrin ?
Ouais, donc c'est acté. Quoi. Je veux dire, les anciens, maintenant,
Claude Puel aura besoin de lui sur la saison. Il ne jouera pas tous les matchs. Mais je pense, connaissant quand même le joueur, même s'il est sur le déclin, ça reste quand même un joueur intéressant sur certains points. Et je suis persuadé qu'il fera appel à lui dans certains matchs. Maintenant... c'est marrant parce que cette question que tu me poses, tout de suite, il me vient à l'esprit, tu sais quoi, un joueur, il n'y a pas de comparaison avec le joueur, hein, mais Cristiano Ronaldo, ce qui se passe avec Sarri à la Juve à l'heure actuelle. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il y a des joueurs qui, non seulement sont sur le déclin, mais d'un point de vue physique, ils n'ont plus le même rendement. Donc ça n'enlève pas les qualités intrinsèques du joueur au niveau tactique et technique. Mais physiquement, oui, on l'a vu lors de l'Europa League, et j'avais mis des doutes justement sur la soirée d'Europa League qu'on présente nous, sur la capacité de Perrin à courir vers son but. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la profondeur. Ouais. Et on a vu encore que c'était difficile.
Jos, quel est ton point de vue ?
Ouais, je suis assez d'accord avec Manu. En fait, je ne crois pas que Claude Puel soit aussi dogmatique qu'on veut bien le dire, c'est-à-dire qu'il a envie absolument de faire du jeunisme pour le jeunisme. On sait que c'est inscrit dans son programme à moyen terme de bâtir, donc forcément il veut s'appuyer sur les jeunes. Moi, je crois qu'il est pragmatique, en fait. C'est-à-dire qu'il regarde vraiment ce qui se passe la semaine et il choisit les mecs qui lui semblent le plus performants. Si c'est des jeunes qui doivent prendre la place de joueurs à statut, il le fait sans aucun problème. Et il se trouve que, moi j'en suis très content, parce qu'il se trouve qu'on a une bonne génération de jeunes, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas dans les 20 dernières années, donc les fameux jeunes qui ont gagné la Gambardella, et il les incorpore, je trouve, de façon intelligente, c'est-à-dire sans avoir peur, mais sans non plus en faire des titulaires absolus à chaque match. C'est plus l'intelligence ce qu'il fait, mais je crois que sa base de choix, c'est d'abord la performance des mecs. Et un Cazerie, par exemple, dont il m'a semblé, avec toute réserve, sur le peu qu'il a joué dimanche, semble déjà aller un peu plus vite que ces derniers temps. Si Cazerie retrouve le niveau de performance athlétique, physique, de rapidité, tonicité qu'il a eu en début de parcours stéphanois, je pense qu'il n'hésitera pas non plus à le faire jouer. Voilà. Donc c'est pas forcément aussi binaire que ça, c'est-à-dire les jeunes versus les vieux, c'est que je pense que la priorité sera donnée à la performance.
D'ailleurs, pour finir ce qui vient d'être dit, je suis persuadé que Claude Puel ne connaît pas son 11 titulaire aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait possible. Oui,
je suis d'accord. Il n'en a pas, en fait. Et là où ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Manu, c'est qu'aujourd'hui, il fait beaucoup de turnover parce qu'il y a beaucoup de matchs. Si par malheur, on devait quitter l'Europa League en décembre, je ne suis pas sûr qu'il en ferait autant.
Oui, il va y avoir un embouteillage au vestiaire.
Bon, en tous les cas, alors, il y a aussi autre chose, hein, c'est que pour l'instant, ces anciens-là, on parle de Cazerie et Perrin principalement, là, pour l'instant, monte pas trop au créneau. Bon, enfin, si demain, il y en a un qui...
Oui, mais c'est un garçon intelligent, Perrin. Et puis, c'est le gars du club. Il
ça
a
peut provoquer des tensions.
C'est le gars d'un seul club.
Perrin, il ne montera pas au créneau.
Non, je ne pense pas. Il aime trop ce club.
Donc, vous sous-entendez que Cazerie, lui, pourrait le faire.
Kadri, oui, il peut faire fermer des bouches, Kadri. Donc,
oui, il aime bien.
Il peut être présenté au créneau. Mais cela dit, je pense qu'il va tomber sur une once. Hein. Là-dessus, je ne lui conseillerais pas forcément de le faire. En tout cas, s'il le fait, de le faire de la bonne façon.
Oui, et connaissant Claude, je lui conseille de ne pas le faire, surtout.
Oui. En tout cas, si, il peut le faire, mais avec ses jambes et pas avec sa bouche. Quoi.
Voilà. Hein. Messieurs, merci beaucoup. Le prochain podcast After Saint-Etienne, ce sera la semaine prochaine. Salut à tous.
RMC.
After Saint-Etienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.